à voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, nous réécoutons la rencontre en 2014 entre Sébastien Le Foll et Jean d'Ormesson qui vient de nous quitter. En partenariat avec Le Point. Ce soir, et toi mon cœur, pourquoi bats-tu ?
Dans le domaine de la culture, son seul rival national, c'est Johnny Hallyday. Malheureusement, il n'a pas écrit ses paroles. Jean d'Ormesson, bonjour.
Bonjour.
Alors hier, nous avons parcouru les allées très aristocratiques de votre enfance. Nous avons grimpé sur toutes les branches de votre arbre généalogique. Et d'ailleurs, on est frappé dans cet arbre généalogique de voir que depuis François Ier jusqu'à De Gaulle, les Ormesson ont servi tous les régimes. Vous n'avez jamais eu envie de perpétuer la tradition familiale ?
Au fait, mon père n'avait qu'une idée en tête, c'était le service de l'État. Les Ormesson ont servi l'État. C'était très intéressant d'ailleurs, parce qu'ils ont servi la monarchie, et puis ils ont servi la République. Ils n'ont pas servi l'Empire. L'Empire, c'était déjà l'autoritarisme, ils n'aimaient pas ça. Mais on servait l'État. Et mon père, c'était un peu comme Ford. Vous savez, il y avait une publicité de Ford qui disait... Vous savez que les premières Ford étaient noires. Et la publicité de Ford, c'était « Vous pouvez avoir une Ford de la couleur que vous voulez à condition qu'elle soit noire. » Et mon père disait « Tu peux faire ce que tu veux, c'est-à-dire... Tu peux choisir entre l'inspection des finances, la Cour des comptes, le Conseil d'État, à la limite les préfectures, la diplomatie, mais c'est tout. Il n'était pas question de devenir banquier, de devenir médecin, de devenir artiste, quelle horreur. Il fallait servir l'État. Il aurait peut-être accepté que je sois historien. Mais quand j'ai choisi la philosophie, il a trouvé ça très inquiétant. Et quand j'ai écrit les livres, il était franchement déçu.
Alors vous écrivez dans votre livre Le rapport Gabriel la chose suivante. Je voulais de l'inattendu, du nouveau, du fantastique. Je crois que j'aspirais à des désastres qui feraient tout sauter. Un désir de catastrophe me travaillait en secret. Alors votre vœu est exaucé puisque la guerre éclate en mai 40. La catastrophe, là, voilà.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vous savez, j'ai eu une enfance incroyablement heureuse. Les parents aimaient les enfants aimaient les parents. Ça s'est poursuivi, d'ailleurs. J'ai beaucoup d'affection et même d'admiration pour ma fille, qui, je crois, m'aime bien. Et évidemment, tout ça me paraissait un peu lourd. Je me disais, il faut remuer un peu tout ça. Et j'étais un peu un chien fou. Mon père est ambassadeur, est nommé ambassadeur par Léon Blum, et quitte Bucarest pour devenir ambassadeur au Brésil, où il succède à... pas directement,
mais... À Claudel.
À Claudel, il succède à Claudel. Et il sait que la guerre va arriver. Mon père était... ultra pacifiste. Je vous ai dit qu'il était pour la réconciliation franco-allemande. Naturellement, il avait abandonné cette idée avec Hitler. Il était le contraire d'un militariste, mais il était de ceux qui pensaient qu'il fallait attaquer Hitler. Non, pas à Munich, c'était déjà trop tard. Il aurait fallu l'attaquer en 36, en 35, en 34. Le traité de Versailles était absurde. Il était trop dur pour ce qu'il avait de faible, et trop faible pour ce qu'il avait de dur. Mais il était là. Il ne fallait pas accepter que Hitler le piétine. Quand Hitler a réoccupé la Ruhr et la Rhénanie, il fallait dire non. Et si on avait dit non, nous savons maintenant qu'Hitler aurait reculé. Et donc, le pacifisme de l'époque a été criminel. La démocratie aurait dû arrêter Hitler plus tôt. Et si on avait été plus ferme, on aurait évité des millions et des dizaines de millions de morts. Et mon père, qui était ultra pacifiste, il était même quelquefois un peu dur. Il n'était pas du tout militariste. Je me rappelle des formules dans sa bouche. disait volontiers en riant, on se demande pourquoi les généraux sont si faibles quelquefois, c'est parce qu'on les choisit parmi les colonels. Il n'était pas vraiment militariste. Eh bien, ce pacifiste était pour qu'on arrête Hitler en 34 ou en 35. Et évidemment, il n'a pas été entendu. Et comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai jamais été à l'école et je suis entré presque directement, je pensais un petit peu au gré des vacances ou des passages de mon père à Paris. J'ai passé quelque temps à Louis le Grand, deuxième, mais on repartait aussitôt. Je suis rentré pratiquement directement des jupes de ma mère en Hippocagne. Et en Hippocagne, qui est-ce que j'ai trouvé ? Tous mes amis étaient non pas communistes, ils étaient trotskistes. J'ai vécu au milieu de trotskistes. Je me disais bien, je ne peux pas continuer comme ça. Tous mes amis sont rebelles et moi je ne suis pas un rebelle. Et alors tout ça a fini très très mal. Tout ça a fini, j'ai foutu la merde dans ma famille en partant avec ma cousine Germaine. Au lieu d'être trotskiste, ce qui aurait été mieux, je suis parti avec ma cousine Germaine. Ça a été un drame.
Voilà. C'est votre pire transgression ?
Oui. Vous savez, c'était pas de l'inceste. Hein.
Rassurez-nous.
Je ne suis pas homosexuel. J'ai beaucoup d'amis homosexuels. J'aime beaucoup les homosexuels. Je pourrais vous citer 20 noms d'amis intimes qui sont des homosexuels connus, avec qui j'ai eu des liens d'amitié, d'affection, de tendresse. Je ne couchais pas avec eux.
Mais vous n'avez jamais été attiré par un homme ?
Alors, quand j'étais en Cagne, j'avais un professeur, ça ne dit plus grand-chose maintenant, que j'adorais mes professeurs, j'ai eu des professeurs merveilleux. Il y avait Jean-Hippolyte qui avait introduit l'hégalianisme en France, qui avait traduit Hegel. J'ai eu Alquier, qui était un personnage merveilleux. Il ouvrait ses cours en Cagne, il bégayait, il avait l'accent du Midi, il était de Montpellier. Et il bégayait un peu, il disait « Vous aurez entendu trois potins, trois ragots à mon égard. Le premier est que je suis homosexuel. Le deuxième est que j'ai ramassé ma femme dans un bordel. Et le troisième, je ne sais plus ce que c'était. De ces trois assertions, il n'y en a que deux qui soient vraies. » Et il y avait un jeune type qui a introduit Heidegger en France qui s'appelait Jean Beaufray. Et Jean Beaufray était ouvertement homosexuel, et je crois qu'il m'aimait bien. Enfin bref, disons qu'il était tombé amoureux de moi. J'avais 19 ans, et il devait en avoir 30. Et était mon professeur. Et je me rappelle qu'on descendait le boulevard Saint-Michel, et il essayait de me convaincre, et je me rappelle un argument de lui qui était « C'est pas parce que je t'aurais enculé deux ou trois fois que tu deviendras pédéraste. » Et je lui disais « j'y vois pas l'inconvénient, mais vous savez, je crois que j'aime pas beaucoup ça. » Et alors il essayait de me convaincre, voilà. Et des amis homosexuels m'avaient nommé « homosexuel d'honneur ». Et j'avais eu l'imprudence de dire ça à la radio. Et j'ai reçu une lettre d'une dame qui signait la baronne, je ne sais pas quoi, qui disait « Non seulement votre père était ambassadeur du Front populaire, non seulement vous êtes parti avec votre cousine Germaine, mais maintenant vous êtes homosexuel d'honneur, je ne vous serre pas la main. » Voilà. Alors vous voyez, j'avais ce sentiment d'agitation. Je me disais, mais à quoi je sers ? Je ne suis même pas communiste, je ne suis même pas fasciste. Qu'est-ce que je vais devenir ? Et quelquefois, j'attendais, c'est vrai que j'attendais les catastrophes. Vous savez ce que c'est ? C'était tout simplement la fameuse formule de Chateaubriand, « Levez-vous, orage désiré !» Levez-vous, orage désiré. Eh bien, moi, je ne me rappelle plus cette phrase. J'attendais des catastrophes, évidemment. J'ai été servi. J'ai été servi. Il y a eu la guerre.
Et en 1945, vous êtes reçu à Normale. Bah dites-moi, pour un dilettante, un irrésolu, c'est pas mal du tout.
Eh bien, c'est exactement ça. Vous savez ce que je voulais faire, je sais très bien. Vous savez, on dit quelquefois aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire? Et ils veulent être banquiers, ma petite fille voulait être vétérinaire. Et moi, je savais très bien ce que je voulais faire. C'était rien. Je ne voulais rien faire. Et j'ai vu plus tard, bien plus tard, j'ai lu avec un bonheur inexprimable, sous la plume de Mauriac, que, évidemment, ce qu'il y avait de mieux pour un jeune homme, c'est de vouloir devenir écrivain. Mais que si on n'avait pas la vocation, il y avait un signe très sûr, c'est de ne rien vouloir d'autre. Eh bien, je ne voulais rien d'autre. L'idée de devenir écrivain ne me traversait pas l'idée. Non pas parce que je n'aimais pas la littérature. J'étais un grand lecteur. J'étais, comme enfant, j'étais un grand lecteur. Mais l'écrivain, pour moi, c'était une espèce de dieu. Il n'était pas question de devenir écrivain. Je n'ai jamais écrit de poème à 5 ans. Je n'ai jamais écrit de roman comme Sagan à 17 ans. Je n'ai jamais écrit de poème comme Minou Jouret.
Même pas un petit journal intime ?
Rien, rien, absolument rien. Pas de journal intime. Je crois que
des lettres d'amour déjà, non?
Jamais, rien, jamais. Pas une lettre d'amour, pas un poème, rien, pas de poème à ma mère, rien. Et vous voyez, il y avait ce vide et cette attente de quelque chose. Après, encore Mauriac, je crois que c'était dans Les chemins de la mer. La vie de la plupart des hommes est un chemin mort et ne mène à rien. Mais d'autres sentent dès l'enfance le sel de la mer qui arrive jusqu'à eux, il leur reste de s'y précipiter et peut-être de s'y noyer. Et ben voilà, je me disais, la seule issue, c'est la catastrophe. Et la catastrophe est arrivée, ça a été la guerre.
Oui, mais cette attirance pour la catastrophe, mais qui est contrebalancée par cette presque certitude chez vous, très jeune, que vous étiez né sous une bonne étoile, oui, et qu'il ne pouvait rien vous arriver.
En effet, C'est amusant. J'ai toujours été très gai. J'ai toujours été optimiste.
Et meilleur est toujours certain, c'est votre devise? Ça pourrait l'être?
Oui, ça pourrait l'être. Le meilleur est devant nous, probablement. Et ça m'a suivi jusqu'à il y a 6 mois, quand tout à coup j'ai appris que j'avais un cancer. D'abord, mes amis sont tombés des nues. Ils ont dit, tu étais le dernier enfant. J'avais eu une enfance. J'étais très, très fragile comme enfant. Je vous ai dit que j'avais été élevé au jus de carotte. Et j'étais très fragile, mais j'avais en fait une santé de fer. On me disait, Cocteau, il a une mauvaise santé de fer. et j'étais très solide. Et quand j'ai appris que j'avais le cancer, tout le monde a été très étonné autour de moi. Et le sentiment dominant, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais vexé. Voilà. Et en effet, il y avait à la fois cet optimisme et ce désir de ne rien faire. Et j'ai compris très vite que si je ne voulais rien faire, il fallait faire des études. Ça m'empêchait d'entrer dans la vie active. Je n'avais pas envie d'être banquier, je n'avais pas envie d'être diplomate. Normalement, évidemment, mon père espérait une seule chose, c'est que je devienne diplomate. Je travaillais très très bien, j'étais toujours premier, puisque j'étais seul, je travaillais avec ma mère. Ma mère ne savait pas le latin, ne savait pas les mathématiques, ne savait pas le grec, et m'a appris les mathématiques, le latin et le grec, par un cours, par correspondance, avec quelque chose qui s'appelait ATMER, le fameux cours de correspondance ATMER. Et alors c'était intéressant, donc j'étais promu, puisque j'étais seul. Et j'entre en Hippocagne, et le petit génie est dernier. J'étais dernier en Hippocagne. Et il a fallu regrimper tout ça. Et je me disais, je vais faire des études. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire des études. Et je suis rentré en Cagne. Et stupeur, j'ai été reçu à l'école normale. Et j'avais un ami intime, que vous connaissez tous, bien que vous ne sachiez même pas qui c'est, qui s'appelait Philippe Bert, qui était à la Cour des comptes et dont le fils est célèbre, est illustre, puisque son fils, c'est Édouard Baer, qui est aussi drôle que son père et aussi intelligent que son père. Mais son père était en plus à la Cour des comptes, c'est-à-dire qu'il était aussi brillant, aussi drôle, mais il était à la Cour des comptes, c'est-à-dire dans un endroit qui n'est pas fait pour rigoler. Et quand j'ai été reçu à l'école normale, il a eu une formule que j'ai adorée. Il a dit « Personne ne pourra dire que tu as été reçu par faveur, tu as été reçu par erreur.
» Mais le paresseux, le dilettante, est-ce que ce n'est pas pour amuser la galerie? Ça, vous deviez être quand même un sacré bosseur, non? Un bûcheur.
Oui, bien sûr, j'ai peut-être dit ça pour amuser la galerie. C'est vrai que j'ai longtemps fait croire qu'en Cagnes, je ne travaillais pas. Donc j'ai été reçu par mon génie propre, ce qui est très exagéré. Et en réalité, j'avais travaillé énormément, énormément.
Alors parmi vos condisciples, il y avait également des gens comme Jean-François Revel, ben oui, Alain Perfit.
Alain Perfit. Alors, nous étions tous très conscients que notre génération était moins brillante que les générations d'avant. Avant, c'était, ben, c'était Piggy, c'était Aron, c'était Jaurès, c'était Louisant, c'était Misan, c'était... Et nous avions l'impression que nous étions assez nuls. Et ma promotion, c'était en effet Perfit, Revel, Althusser. Althusser était un tout petit peu plus vieux que nous. Il avait 6 ou 7 ans de plus vieux que nous. Et il était communiste, comme vous savez, et dépressif. Et j'avais une vénération pour Althusser. Et comme je vous ai dit que je ne voulais rien faire, que je ne savais rien faire, une fois que j'ai été reçu à l'école normale, il fallait choisir une agrégation. Et comme mon père voulait absolument que je devienne diplomate, je me suis dit, ben, peut-être que je vais faire l'ENA après l'école normale. Et je travaillais très bien. Et mon frère aîné, qui avait 5 ans de plus que moi, était un cancre formidable. Et mon frère voulait devenir marin. Et toute la famille disait, mais il ne pourra jamais passer le concours de l'école navale, il est trop faible. Et puis, il y a la résistance, mon frère a fait un peu de résistance, et s'ouvre l'école d'administration, l'ENA est créée par Debré, et mon frère dit, je vais me présenter. Hurlement de rire de la famille, il est reçu. Il est sorti premier. Il est sorti premier. Mais comme il était un cancre, il y avait 170 fautes d'orthographe. Et on a dit, on ne peut pas le mettre premier, on va le mettre second. Et il est quand même devenu inspecteur des finances. Et donc, moi, il fallait que je fasse aussi quelque chose. Et j'ai préparé l'agrégation d'histoire. Et puis, quand même, j'ai été trouvé Althusser, qui était notre patron, camarade patron, et je lui ai dit, écoute, je veux passer aux lettres. En réalité, j'étais tombé amoureux de la philosophie. J'aimais la philosophie. La philosophie ne m'aimait pas beaucoup, mais j'aimais la philosophie. Et je me suis dit, je vais me rapprocher avec les lettres. Ah, il a dit, très bien, on t'a inscrit aux lettres. Et puis, je me suis dit, il faut me rapprocher encore de la philosophie. La philosophie, c'est du grec et de l'allemand. Je vais faire l'agrégation d'allemand. Puis, comme je parlais allemand, puisque j'ai été à Munich pendant 8 ans, je me suis dit, ça va pas me demander trop de travail. Je vais revoir une troisième fois Althusser qui me dit, c'est la troisième fois que tu changes d'agrégation. Mais enfin, bon, tu feras l'agrégation d'allemand. Et au bout de 3 mois, je lui dis, je veux faire l'agrégation de philosophie. Il me dit, tu sous moi, tu peux tout faire. Tu peux faire l'agrégation d'allemand, de lettres, d'histoire. Philosophie, tu es trop faible. Et j'ai voulu faire l'agrégation de philosophie et j'ai été reçu à l'agrégation de philosophie.
Jean d'Ormesson, vous parliez de l'esprit de votre génération. Je vais vous lire les premières phrases d'un roman que vous connaissez bien, Le Hussard Bleu de Roger Nimier. Vous allez me dire si vous retrouvez dans cette description. J'appartiens à cette génération heureuse qui aura eu 20 ans pour la fin du monde civilisé. On nous aura donné le plus beau cadeau de la Terre, une époque où nos ennemis, qui sont presque toutes les grandes personnes, comptent pour du beurre. Votre confort, vos progrès, nous vous conseillons de les appliquer au meilleur système d'enterrement collectif.
Alors c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, je vous assure, je ne dis pas ça par démagogie. Quand j'avais 20 ans, je sortais donc, je me suis toujours présenté comme sortant d'un milieu privilégié. J'étais fonctionnaire. Mon avenir était assuré. Comme normalien, j'étais payé. Bon, pas cher, mais j'étais payé. J'étais assuré de ne pas mourir de faim. Le chômage était à 0,5%. 0,5%. Vous vouliez un job ? Vous le demandiez, vous l'aviez. Vous le demandiez, vous l'aviez. Et je me rappelle mon désespoir. Je me rappelle mon désespoir. Je me disais, je peux m'en sortir que par des catastrophes. Vous vous rappelez ce que vous avez dit. Et je me dis, aujourd'hui, avec le chômage à, je sais pas où il est, à 10% ou 12%, comment est-ce que les jeunes gens sont encore heureux? J'avais tout pour... Et en même temps, j'étais catastrophé. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Alors, quand j'ai été reçu à l'agrégation de philosophie, par erreur, de nouveau, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé Aix-en-Provence. Pourquoi? Parce qu'il y avait du soleil et des filles. Je me suis dit des filles. Alors on m'a dit, écoute, tu n'es pas premier. À l'époque, à l'agrégation, on était 12. 12, hein? Il y avait, je ne sais pas, on était 300 ou 400 à se présenter. On était 12. Et je me rappelle l'émotion quand on lisait la liste des reçus, premier à tel, j'y étais pas. Alors c'est effrayant parce qu'on se disait, il va y avoir que 12. Mes chances croissaient et diminuaient en même temps. Au fur et à mesure, je n'étais pas le premier, je n'étais pas le second, je n'étais pas le troisième, je n'étais pas le quatrième, je n'étais pas le cinquième. Je crois que j'étais huitième. Alors évidemment, quel bonheur, je suis reçu à l'agrégation. Mon père était fou de bonheur. Mon père était quand même très content, il aurait préféré que je sois diplomate. Mais enfin, il n'aimait pas beaucoup la philosophie. Il se trouvait que c'était des anarchistes, les philosophes. Mais enfin, il était fier quand même. Mais alors, il fallait que je prenne un poste. Donc, on me dit, tu n'es pas premier, tu ne peux pas avoir Aix-en-Provence. Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé Grenoble. Pourquoi Grenoble? Le ski! Le ski, j'aimais déjà beaucoup le ski. On m'a dit, ah, ça aurait été épatant, on vient de donner Grenoble, on vient de l'attribuer. Mais on a quelque chose de formidable pour toi, c'est Bryn Mawr. Quoi? Comment? Qu'est-ce que c'est? Bryn Mawr. Bryn Mawr est un collège américain qui demandait un professeur de français avec 6000 jeunes filles. J'étais tellement heureux que je suis tombé assez gravement malade. Je suis tombé malade, j'ai eu une spirochétose, c'est une espèce de poliomyélite. Et c'est la première fois que mon nom est apparu dans le Monde a fait un article, sans me nommer, qui disait un cas de spirochétose en France. Et j'ai eu 41 de fièvre. Et on a dit, il est perdu. Et puis on m'a soigné, et j'étais un peu faiblard, et toujours cette chance, ces privilèges, je me promenais dans la rue, un peu faiblard, et je tombe sur un ami de mes parents, ça ne dit plus grand-chose aujourd'hui, qui était célèbre à l'époque, qui s'appelait Jacques Rueff, qui s'occupait du franc, qui était un grand économiste. Et Jacques Rueff lui dit, oh, je suis embêté, Julien a été élu président du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines à l'UNESCO, j'ai absolument pas le temps de m'en occuper, il faut que je m'occupe du nouveau franc, vous n'avez pas un ami normalien qui pourrait venir m'aider pendant 3 mois? J'ai dit, écoutez-moi, je suis le bec dans l'eau, je n'ai pas été à Bryn Mawr, j'ai rien, j'ai pas de poste. Je suis rentré pour 3 mois à l'UNESCO, je suis resté 30 ans. Voilà comment se fait une carrière, mon pauvre ami.
Et sans l'UNESCO, vous ne seriez peut-être pas devenu écrivain.
Alors, je me reconnais un mérite. Je suis donc entré au Conseil de la philosophie et des sciences humaines, qui était une ONG. C'était une ONG. L'UNESCO avait besoin de gens qui l'entourent. Il y avait une ONG très célèbre qui s'appelait l'ICSU, International Council of United Science. C'était les astronomes, les physiciens très puissants. Et il y avait des sociologues avec un secrétaire général qui était Lévi-Strauss. Et il y avait moi adjoint de Jacques Rueff, donc secrétaire général adjoint du Conseil de la philosophie et des sciences humaines. Et j'ai travaillé là, je suis resté 30 ans ou 40 ans, je suis tombé sur quelqu'un qui s'appelait Caillois, Roger Caillois, qui s'occupait à l'UNESCO d'une revue qui s'appelait Diogène, et j'étais moitié l'adjoint de Caillois, moitié l'adjoint de Rueff. Et j'étais indépendant dans cette petite organisation. Et bon, j'ai travaillé honorablement, et au bout de 2 ans, l'UNESCO m'a dit, voulez-vous... J'étais détaché de l'éducation nationale, avec un traitement de professeur. Traitement de professeur de haut niveau, mais traitement de professeur. Je ne payais pas d'impôts. L'UNESCO ne payait pas d'impôts. C'est un avantage énorme. Et au bout de 2 ans, le directeur général m'appelle et dit, écoutez, vous travaillez bien, je vous propose un poste à l'UNESCO. Le traitement à l'UNESCO par rapport à un professeur français, c'était 4 ou 5 fois plus. Et j'ai refusé. En me disant, je suis libre, je suis tranquille, je peux écrire mes livres. Je travaillais honorablement, je n'écrivais pas mes livres au bureau. Mais enfin, le travail au Conseil de la philosophie et des sciences humaines me laissait le temps. À 6 heures, je partais, je rentrais travailler. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu écrivain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2014 de Sébastien Le Foll avec Jean d'Ormesson qui vient de nous quitter. En partenariat avec Le Point. À voix nue, réalisation Anne de Pelchin, prise de son Benjamin Thuau, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.